Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
Merci beaucoup Christelle Fitimangwa, merci à vous aussi qui nous suivez en ce moment. Mais d'abord, les titres de ce journal. Le gouvernement provincial de Kinshasa n'a jamais programmé une éventuelle opération de contrôle des mototaxis. Le ministre provincial du transport est formel, c'est une folle rumeur. Nous parlerons aussi dans ce journal de plus de 80 ressortissants congolais vivant en Zambie, interpellés en Douala, dont certains ont été même expulsés de ce territoire. Et pour cause, ces personnes sont accusées de séjour irrégulier en Zambie, selon des sources sur place. Pour la première fois depuis la fermeture de l'aéroport de Goma il y a un an, en raison de la guerre, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri le jeudi 12 février à cet aéroport. Vous allez suivre la porte-parole de la MONUSCO qui est revenue sur les différents aspects de cette question dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce lundi 16 février. Encore une fois, bonjour à tous. Nous débutons ce journal par donner d'abord cette précision au sujet d'une éventuelle suspension ou démarrage de l'opération de contrôle des mototaxis. Le ministre provincial des Transports est formel, c'est une folle rumeur. Selon Jésus Noël Cheke, déjà une activité de démarrage de contrôle des motos n'a jamais été dans leur programme. On écoute ces explications au téléphone de Benjamin Mundumbi.
Il faut déjà noter qu'il ne s'agit pas de la suspension d'une opération de contrôle, parce que cette opération de contrôle, ça n'a jamais figuré dans l'agenda des activités que nous avions déployées sur ce terrain. Donc ce que je puis vous dire, qu'il n'existe à ces jours aucune opération de contrôle routier spécifique visant exclusivement les motocyclistes sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. C'est une folle rumeur que nous avions tenu à démentir au moyen d'un communiqué que nous avions rendu public aujourd'hui. Seules les opérations en cours récemment lancées par son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki, c'est-à-dire la mission mixte permanente des régulations routières, qui continue car c'est une mission permanente et pérenne, et cette mission qui vise à rétablir d'abord l'ordre et terminer les désordres qui sévissent aujourd'hui à travers nos routes, avec entre autres objectifs également le rétablissement de l'autorité de l'État sur la voie publique.
Restons toujours dans la capitale pour vous signaler que l'hôtel de ville de Kinshasa a débuté depuis hier lundi à la délimitation des zones où les constructions anarchiques seront démolies dans la baie de Ngaliema. L'annonce a été faite samedi 14 février par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, ce à l'issue d'une descente sur le terrain menée aux côtés du vice-premier ministre de l'Intérieur. D'après Jacquemin Chabani-Louko, l'opération vise à restaurer l'ordre urbanistique et à libérer les emprises publiques occupées illégalement. Cela pour prévenir les risques majeurs, notamment les inondations récurrentes, garantir une distribution d'eau potable et sécuriser durablement les populations de Kinshasa, a-t-il souligné. D'autres détails avec vous, Alain Irungu-Mushing.
Cette urbanisation désordonnée dans la baie de Ngaliema obstrue le point de captage de la régie des eaux qui alimente plus de 14 communes de la capitale. René Tokodiatoulou, directeur de la distribution de la régie des eaux Ouest, explique que cette situation compromet l'approvisionnement en eau potable.
Nous avons pu fonctionner normalement à cause de l'occupation anarchique de cet espace. Il y a des travaux qui ont fait que l'eau ne sait plus couler normalement et notre captage où nous sommes ne sait plus fonctionner.
À l'époque, on avait 8 mètres de profondeur entre la crépine et le fond du fleuve pour prendre l'eau. Nous sommes à moins de 2 mètres. Ce qui fait que lorsque nous captons l'eau, on a même de sable. Les sables détruisent maintenant nos pompes.
De son côté, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, regrette que malgré les précédentes opérations de délimitation des zones interdites à la construction dans la baie de Ngaliema, certaines personnes persistent à enfreindre les règles.
Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. On va délimiter les zones. Encore une fois, parce qu'on avait des délimités. Et si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre leur argent, continuent à construire.
Léon Moulumba a confirmé que les démolitions débuteront au cours de cette semaine.
Je le disais en titre, plus de 80 ressortissants congolais vivant en Zambie, interpellés en Douala, dont certains ont été même expulsés de ces territoires. Résultat d'une opération menée ce week-end par les départements zambiens de l'immigration. Et pour cause, ces personnes sont accusées de séjours irréguliers en Zambie selon les sources sur place. Le département de l'immigration zambien rappelle que tous les ressortissants étrangers sont tenus de se conformer aux lois sur l'immigration du pays. Les détails avec Paul Emonanga.
D'après les autorités zambiennes, plus de 170 personnes de différentes nationalités sont soupçonnées d'être des immigrants illégaux. Parmi ces personnes, il y a plus de 80 ressortissants congolais, d'autres personnes dont la nationalité n'a pas encore été déterminée et des réfugiés d'origine congolaise. D'après certaines sources, cette opération a été menée par le département zambien de l'immigration avec le soutien d'autres services de sécurité zambiens. L'opération a ciblé les zones comme Hillcrest, Mitengo, Kawama, Kansenshi et Dola Hill dans la ville d'Ndola. Après le processus de filtrage et de vérification, 15 réfugiés d'origine congolaise ont été tenus de se relocaliser au camp des réfugiés de Meheba en Zambie. 10 adultes congolais accompagnés de 26 mineurs sans papiers ont été expulsés de la Zambie via les postes frontaliers de Sakanya, rapportent certaines sources. D'autres ressortissants congolais ont été priés de quitter le pays après avoir étudié sans titre de séjour valide et 5 ressortissants congolais reste en détention dans l'attente de l'enquête et d'éventuelles poursuites judiciaires. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis un calme relatif est revenu à Bafwasende après les incidents sanglants survenus dans le groupement des Bafwazongo le dimanche 15 février courant. Les deux victimes fauchées par des balles tirées par des policiers ont été inhumées hier. Selon l'administrateur du territoire des Bafwasende, les forces de l'ordre débordées au moment de leur intervention pour rétablir le calme ont dû recourir à leurs armes et blessant mortellement deux civils. Réagissant face à ces comportements, le député national élu de Bafwasende, Justin Bendesana, condamne fermement ces actes et exige une enquête impartiale soit menée afin d'établir les responsabilités. Et en même temps, il exhorte la population au calme. On écoute Justin Bendesana, élu de Bafwasende, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Je dénonce avec la plus grande fermeté la bavure policière survenue à Bafwasende ce dimanche 15 février 2026. Cet incident tragique a coûté la vie à deux civils et grièvement blessé deux policiers, ravivant ainsi des tensions dans un contexte déjà fragile. Au regard des récents événements sécuritaires à Kisangani, nous ne pouvons permettre qu'un nouveau foyer de tension s'installe à Bafwasende, territoire frontalier de la ville de Kisangani, et serve de terrain d'exploitation aux ennemis de la République. Nous exigeons qu'une enquête sérieuse, transparente et impartiale soit menée afin que les responsabilités soient clairement établies et que le coupable soit puni selon les lois de la République. Défendre la République, c'est aussi protéger les populations, faire respecter la discipline et garantir la justice. Et j'en appelle à la population de Bafwasende de rester calme car le pouvoir public se charge de l'affaire. Restons unis et attachés à la paix derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.
Rappelons que ces incidents sont consécutifs au décès d'une femme après une longue maladie. Son mari était convaincu que le chef de groupement lui aurait jeté un mauvais sort. Ce journal se poursuit dans le sud Kivu. La présence massive et diversifiée des groupes armés dans les territoires de Fizi a un impact négatif sur l'écosystème de cette entité située au sud de cette province. La faune et la flore y sont fortement affectées. Ces groupes armés exploitant les ressources naturelles pour assurer leur survie. L'administrateur du territoire des Fizi dresse un tableau sombre de la situation environnementale dans sa juridiction. Les propos de Sami Kalonji-Balibanga ont été recueillis par Jean Kassami.
Pendant cette période de guerre, certains groupes armés trouvent une occasion d'exploiter le bois rouge le plus recherché, abattage abusif des arbres pour fabriquer des braises, pour arriver à exploiter facilement de l'or. Les animaux que nous avions à l'époque qui faisaient la fierté du territoire des Fizi, notamment l'hyène, les éléphants, n'existent plus parce qu'ils ne trouvent pas leur habitat naturel. Toute cette forêt est détruite par les groupes armés. La rivière Mutambala à Malinde est en train de se rétrécir. Les arbres sont coupé abusivement parce que en amont de cette rivière, on exploite de l'or. Puis à l'époque, il y avait d'arbres médicinaux, mais aujourd'hui, toute la flore est détruite. Il y a déjà les moustiques, une très forte chaleur, la crue de rivière sur le littoral du lac Tanganyika, précisément à Kazimia, ce qui commence à faire comprendre à la population que nous devons songer à un plan B et qui est celui de reboiser et interdire le coupage abusif d'arbres dans notre territoire de Fizi.
Élaboration de la feuille de route pour la révision de la politique de recherche et innovation en RDC au centre des échanges, c'est lundi 16 février à Kinshasa. Pendant deux jours, des universitaires, des spécialistes des données, des chercheurs, des représentants de l'UNESCO, des hauts fonctionnaires du ministère de l'ESU et des experts de l'Institut national des statistiques examineront les données sur la recherche et l'innovation au cours de cette réunion multipartite organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire en collaboration avec l'UNESCO. Ces assises visent à accélérer la digitalisation des collectes de données et définir une feuille de route pouvant améliorer la production et la gouvernance des données dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Dans son mot d'ouverture, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire s'est engagée à apporter son soutien à la science, technologie et innovation, STI en sigle. Marie-Thérèse Sombo, dans cet extrait choisi par John Chibwabwa.
Le thème des présentes assises, axé sur la mesure de la science, de la technologie et de l'innovation et des politiques sectorielles, donne de l'espoir à mon ministère, car cela cadre avec ma feuille de route qui prévoit l'organisation des enquêtes de la recherche et développement expérimental et de l'innovation comme préalable à la révision de la politique nationale de recherche scientifique validée en 2021 en faveur de la formulation d'une politique de la recherche et de l'innovation. La formulation et mise en œuvre des politiques sectorielles exige la qualité de bons indicateurs. C'est ainsi qu'en ma qualité de ministre ayant en charge la recherche scientifique et l'innovation, je m'engage à soutenir et à suivre personnellement l'organisation des enquêtes STI pour obtenir des instruments qui sont des guides nécessaires à la prise de décisions éclairées et améliorer ainsi la gouvernance du secteur de la recherche et de l'innovation en République démocratique du Congo.
Puisque nous parlons d'enseignement, sachez qu'une délégation syndicale de l'Université de Kalemie Unical appelle au calme tout le corps enseignant et toute la communauté estudiantine. Nous sommes là, dans la province du Tanganyika. Dans un document parvenu dimanche à Radio Kapi, elle alerte sur un message qui a circulé sur les réseaux sociaux appelant à la grève et à la manifestation des étudiants. En outre, la délégation syndicale indique que ces messages contiennent des informations fausses et malveillantes. Le reportage de Paul Munanga, rendu par Vicky Odiambala.
La communauté universitaire de l'UNICAL, par son bureau syndical, n'est pas responsable de ces faux documents et rassure toute la communauté de la bonne marche de toutes les activités académiques. La délégation syndicale met en garde les auteurs de ces documents, je cite, qui chercheraient à discréditer l'image de l'université de Kalemie, cadre de formation de nos enfants, fin des citations. Pour rappel, ce week-end, un tract a été jeté dans la ville de Kalemie, appelant à la grève et à la manifestation des étudiants. Le recteur de l'UNICAL ainsi que certains étudiants contactés par Radio Kapi ont confirmé la présence d'un malaise au sein de cette institution universitaire. Cependant, les recteurs rejettent en bloc les allégations mentionnées sous ces tracts. C'est notamment l'accusation de mégestion du comité de gestion de l'UNICAL, l'absence prolongée du recteur au sein de l'institution et le non-paiement des enseignants. Signalons qu'un calme s'observe ce lundi à l'UNICAL et les cours sont dispensés normalement.
Restons dans le coin avant d'aller plus loin. Deux écoles modernes ont été inaugurées ce week-end dans la commune de Luena, province éducationnelle du Oromami 2, sous-division de Bukama 4. Ces infrastructures ont été construites par le gouvernement national dans le cadre du projet de développement des 145 territoires. Selon des sources locales, l'avènement de ces établissements scolaires constitue une première dans la commune de Luena. Les détails dans ces condensés de Paulin Munanga, rendu par Alain Irung.
Habillés en uniforme bleu et blanc, les élèves alignés devant les nouveaux bâtiments de la commune de Luena ont scandé des chansons à l'occasion de l'inauguration de ces infrastructures scolaires. Ces nouveaux établissements abritent l'école primaire Luena 1, non conventionnée, ainsi que l'école primaire Dialungana 2, conventionnée kimbanguiste. Chacune des écoles comprend 6 salles de classe équipées de 20 bancs pupitres, pouvant accueillir 60 élèves par salle. Chaque classe dispose également d'une table avec tiroir et d'une chaise pour l'enseignant. Les infrastructures comprennent en outre un bureau du directeur avec secrétariat et réception, une salle des enseignants, des latrines et douches internes, ainsi que des latrines externes hydriques séparées pour filles et garçons. L'électricité et des châteaux d'eau ont également été installés. Chaque école possède une salle polyvalente destinée à l'organisation des réunions et d'autres activités. Selon Florentin Yamakwese, directeur de l'école primaire Dialungana 2, cet établissement public construit en 1977 a été à plusieurs reprises victime des catastrophes naturelles, ce qui rend l'avènement de ces nouveaux bâtiments particulièrement significatif.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les trois responsables d'organisations étudiantes arrêtés mercredi 11 février à la suite des violences qui ont secoué l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont finalement retournés au commissariat au soir de ce lundi 16 février. Maintenus en détention par retour de parquet, une procédure qui permet au procureur de poursuivre l'examen du dossier avant toute décision judiciaire. Le procureur a décidé d'ouvrir une instruction judiciaire.
L'invité.
Pour la première fois depuis la fermeture de l'aéroport de Goma il y a un an, en raison de la guerre, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri le jeudi 12 février à cet aéroport. La porte-parole de la mission des Nations Unies en RDC, Madame Kadilo, est revenue sur les différents aspects de cette question dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce lundi 16 février. On l'écoute au micro de Guy Matetongo.
Madame Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, quel sens la MONUSCO donne à l'atterrissage de son hélicoptère à l'aéroport de Goma?
Nous donnons à cet atterrissage un sens symbolique d'espoir, un signal opérationnel important. Vous savez, après une très longue interruption de l'accès aérien à la ville de Goma, cet atterrissage permet de tester la faisabilité et la sécurité des accès, ce qui est essentiel pour les mouvements liés à notre mandat de protection des civils. Cet atterrissage s'inscrit aussi dans nos efforts visant à appuyer les préparatifs du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à la résolution 2808 de 2025. Donc c'est un symbole et un signal d'espoir.
On se rappelle comment la rébellion avait réagi lorsqu'à la conférence de Paris en octobre 2025, il avait été annoncé la prochaine réouverture de l'aéroport de Goma. Maintenant qu'il y a cet hélicoptère qui a atterri à cet aéroport, quelle a été la contrepartie pour que l'AFCM23 puisse autoriser cet atterrissage?
Il ne saurait y avoir de contrepartie quand la MONUSCO est impliquée dans des actions comme ça. Vous savez, la mission agit dans le cadre de son mandat et sur la base d'arrangements pratiques visant à garantir la sécurité et la prévisibilité de ses mouvements. Cet atterrissage a été préparé autant avec les autorités nationales ici à Kinshasa qu'avec des contacts réguliers. Nous avons des collègues qui sont basés à Goma et ce, en vue d'éviter tout incident, notamment via une coordination technique et sécuritaire. Notre priorité est la sécurité de notre personnel et le respect des principes des Nations Unies. Donc, parler de contrepartie ne semble pas être le mot qu'il faut.
Alors, est-ce que ce n'est pas le début d'un processus, n'est-ce pas, qui pourrait aboutir à la réouverture de l'aéroport de Goma?
Comme l'a dit la représentante spéciale du secrétaire général par intérim à son atterrissage à Goma, elle était dans le dernier appareil qui est arrivé dans la ville le 27 janvier 2025 et elle est aussi dans le premier qui atterrit après l'interruption de l'accès aérien à la ville. Donc cet acte ne saurait être isolé dans le cadre du processus dans lequel nous sommes tous impliqués et pour lequel nous espérons que tout soit couronné de succès. Donc prenons cet atterrissage comme un symbole allant dans le sens d'une normalisation.
On sait que les fronts partent du Grand Nord, du Nord Kivu, jusqu'au Sud Kivu, en passant par Bukavu, Uvira, et jusque dans les hauts plateaux. Est-ce que la MONUSCO a assez de ressources humaines, n'est-ce pas, à déployer sur ces vastes espaces?
Le territoire, il est vaste, mais je pense qu'il est nécessaire de faire une différence entre les différentes zones que vous venez de citer. Au Nord Kivu et en Ituri, la MONUSCO a un mandat, un plein mandat de protection des civils, et le mandat donné par la résolution 2808-2025 concerne ces deux zones qui sont les zones de déploiement de la mission. Mais quand il s'agit des hauts plateaux, de Bukavu, d'Uvira, du Sud Kivu en général, il ne s'agit que d'un mandat limité au suivi du cessez-le-feu. Donc il y a cette différence à faire. Donc pour ce qui est de l'espace vaste, c'est une réalité géographique avec laquelle nous faisons. L'espace est vaste et le contexte complexe selon les zones. La réponse n'est pas d'être partout, mais de travailler avec une approche qui permet d'être en priorité dans les zones où les incidents sont les plus nombreux, dans les hotspots, comme on le dit dans notre jargon.
L'un des défis de la MONUSCO, c'est le manque de confiance entre les parties prenantes, comme on l'a constaté récemment le secrétaire général des Nations Unies, qui estime que le cessez-le-feu ne pourra réussir que s'il y a cette confiance mutuelle entre les parties. Mais si la méfiance persiste, qu'est-ce qui est envisagé par la MONUSCO?
Alors, il faut juste comprendre que dans des circonstances comme celles qu'on vit, chaque pas est un pas en avant. Et donc, il faut prendre, comme on dit, one step at a time en anglais. Donc, pas à pas, on va y arriver. La méfiance est un fait. Et justement, un mécanisme de suivi et de vérification sert à réduire les incertitudes par des procédures communes et des constats crédibles. Donc, qui permettront de réduire la méfiance et de réunir tout le monde autour de l'essentiel, qui est d'avancer vers la paix.
C'est aussi la fin de notre journal, coordonné et supervisé par Lievin Mwingavubu et mis en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.